Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Dans 11h30, nous en aurons terminé avec cette incroyable année 2020. Beaucoup d'entre vous s'organisent encore pour un réveillon totalement inédit, en petit comité, sous le signe du couvre-feu à partir de 20h. Alors votre état d'esprit, les derniers achats, qu'est-ce que l'on peut faire ou ne pas faire ce soir? On en parle évidemment tous ensemble sur le 3210-3210. Un réveillon en tout cas sous haute surveillance où plus de 100 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour veiller au respect des règles sanitaires souhaitées par le gouvernement et le président Macron qui adressera ses vœux à la nation ce soir à 20h. Allocution très attendue dans un climat qui ne prête pas à l'optimisme comme l'a constaté notre invité, le politologue Jean-Daniel Lévy, à la lecture de ce dernier sondage à Harris RTL qui révèle que 82% des Français ont passé en 2020 une année négative et 39% très négative. Le Brexit, c'est pour ce soir. Dernières heures sous la bannière européenne pour les Britanniques. On verra comment les Français sur place appréhendent ce passage à leur anglaise. Il est 12h31 et à l'instant, on apprend le décès du comédien et metteur en scène Robert Hossein à l'âge de 93 ans. Il était né un 30 décembre. Il s'éteint donc aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Inoubliable, inoubliable dans des rôles assez incroyables. Geoffrey de Peyrac, on s'en souvient tous, dans Angélique, Marquise des Anges et puis ses grands spectacles comme Ben-Hur. On en reparle dans quelques instants avec ce portrait signé dans un instant de Monique Younes qui devrait nous rejoindre, évidemment, parler avec émotion parce que c'est quelqu'un qui nous appartient un petit peu dans ce paysage comme tous les acteurs qui nous quittent en ce moment. On pense encore à Claude Brasseur, on en parlait il y a quelques heures. Et là, donc, c'est Robert Hossein aujourd'hui qui donc vient de décéder à 93 ans. Petit regard vers la météo avec vous, Claire Delorme. Il fait froid
et aussi humide. L'année 2020 se clôture par un temps perturbé sur une grande partie du pays, avec donc de la pluie, du vent et du froid, du sud-ouest en passant par les régions centrales, les Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est, avec même quelques flocons qui se mêleront d'ailleurs à la pluie vers les Ardennes ou encore à basse altitude vers les frontières de l'Est. Attention au risque d'avalanche pour terminer sur l'Est des massifs et au risque aussi de crues qui persistent encore dans les départements du sud-ouest.
On va parler de réveillon tout à l'heure, évidemment, on va parler de musique et un concert virtuel. On a une grande pensée puisqu'on vient de l'apprendre de quelques secondes, 10 secondes à peine. Robert Hossein décède à 93 ans. On va recevoir tout à l'heure Jean-Michel Jarre qui va jouer dans un Notre-Dame virtuel. Je pense que lui aussi on aura son mot à dire, qui a connu une année particulière, comme beaucoup d'entre vous. On se souvient des mots bleus avec Christophe, de la part de Jean-Michel Jarre, et Christophe qui nous a quitté, le chanteur, cette année. Une nouvelle disparition. Venez nous en parler sur le 3210-3210. La question du jour était toute simple. Réveillon du nouvel an, allez-vous respecter les consignes sanitaires? Vous dites pour l'instant oui à 80% et non à 13%. Venez nous parler de vous, de votre réveillon, de la disparition de Robert Hossein également. C'est votre émission jusqu'à 13h30. Vous aurez la parole, bien sûr, juste après 13h. 3210-3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Un grand nom du cinéma, acteur, réalisateur, vient donc de nous quitter. Robert Hossein, 93 ans. Monique Younes nous rejoint. C'est un géant du théâtre et du cinéma qui nous quitte aujourd'hui. Il avait célébré, je vous le disais, son anniversaire hier, un 30 décembre. Hommage donc avec vous, Monique, à l'inoubliable Geoffrey de Peyrac d'Angélique, marquise des Anges.
Comme l'aurait dit San Antonio, avant de se retrouver entre quatre planches, Robert Hossein a commencé par monter sur les planches. Acteur fut sa façon d'exister.
J'aimais ce métier, mais inconsciemment, je voulais me sortir de la merde, surtout dans laquelle on vivait et tout. Et je me disais toujours, mon Dieu, si un jour j'aborde cette profession, peut-être que j'aurai un peu de chance et je pourrais en vivre.
Après son retour du service militaire, il aura pour ange gardien le créateur de San Antonio, Frédéric Dard, qui, le voyant jouer sa pièce Du plomb pour ses demoiselles, l'impose comme metteur en scène de ses autres pièces. Boulimique de travail, Robert Hossein se démène au point que sa rage de fer le conduit à diriger en 1970 le Théâtre populaire de Reims. Là, il crée une école de théâtre où vont se côtoyer Isabelle Huppert, Jacques Weber, Jacques Villeray, Patrick Chenet et Isabelle Adjani.
Et j'ai tout de suite vu que cet ange était le diable. Fantastique. C'est la révélation.
Robert Hossein a toujours vu les choses en grand. Il réalise son rêve de produire des spectacles populaires avec plus de 100 comédiens sur scène. Son slogan:
du théâtre comme vous n'en verrez qu'au cinéma. Et c'est grâce à ses recherches techniques que nous avons pu monter Shakespeare avec des tout petits micros sur la tête pour permettre à 4000 personnes, pour un prix tout à fait normal, de pouvoir assister à Shakespeare. C'est un résultat unique et mondial.
Mais quand il essaie d'instituer un rapport qualité-prix au théâtre, il est vilipendé par ce qu'il appelle lui-même l'intelligentsia parisienne.
On n'a pas de leçons à recevoir. Tous les gars qui sortent eux-mêmes bardés de diplômes et universitaires et tout le bordel. Moi, qui n'ai même pas mon certificat d'études primaires, j'ai fait mes universités dans la rue. Alors, je peux vous dire une chose, que je suis beaucoup plus au contact du cœur des gens. Toute culture qui n'est pas au service du cœur, moi, ça m'emmerde.
S'il a dirigé le théâtre Marigny et mis en scène Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein aura aimé par-dessus tout le Palais des Sports et le Stade de France, où, dans ses méga-productions, comme Notre-Dame de Paris, Ben-Hur, Marie-Antoinette ou Bonaparte, il faisait réagir et même agir le public. Converti au catholicisme sur le tard, Robert Hossein mettra en scène la vie de Jésus. Il expliquait comment Jésus l'avait visité. Aujourd'hui, c'est lui qui lui rend visite.
Témoignage, portrait signé Monique Younès. Je pense évidemment à tous ceux qui ont connu, qui ont adoré l'acteur, le comédien et ses productions à grand spectacle. On recevra tout à l'heure, je disais, Jean-Michel Jarre, lui aussi, hein, auteur de grands spectacles. Et quand je pense à Jésus, ce soir, Jean-Michel Jarre va jouer au cœur même de la nef de Notre-Dame, mais façon virtuelle, pour retrouver un petit peu d'optimisme. C'est l'information de cette matinée, de cette mi-journée. En tout cas, Robert Hossein, il y a quelques minutes, on vient de l'apprendre, décédé à l'âge de 93 ans. Décidément, une drôle d'année 2020 et un réveillon tout à fait inédit, comme bien souvent cette année 2020. Il va donc falloir se réinventer, c'est un mot à la mode, un mot de 2020 en tout cas. Et vous, pour cette soirée pas comme les autres, qu'avez-vous prévu? Franck Hanson, vous êtes allé ce matin dans le quartier de Oisem, à Lille, et malgré cette morosité ambiante, visiblement, on a quand même envie de se faire un petit peu plaisir.
Oui, dès l'ouverture devant la poissonnerie ou autre célèbre pâtisserie lilloise, on voit de grosses files d'attente des nordistes qui préparent leur bon repas de fête en mode restreint.
Bah, on prépare un réveillon pour 6 personnes. Tout le monde va dormir à la maison pour le couvre-feu. Bah, on profite quand même pour avoir des bons produits.
C'est quand même la fin d'année, on a envie de se faire plaisir avec nos proches.
On va faire du magret de canard, ceviche, ouais, de poisson, une pavlova aux fruits exotiques pour voyager.
On n'a pas vraiment pu voyager cette année, on essaie de voyager avec leur repas.
Selon un vendeur, on sent bien qu'il y aura peu de grandes réceptions, pas de grands plateaux de fruits de mer qui défilent. Chez cette mère de famille, le Covid, on l'a déjà vu passer.
On a tous été malades déjà, donc je pense qu'on ne risque pas grand-chose. C'est important, je ne me voyais pas manger jambon coquillette et aller me coucher à 9h. Quoi, voilà. On aurait sans doute été beaucoup plus nombreux avec les enfants, oui sans doute. Donc c'est un réveillon très particulier, mais c'est un réveillon quand même.
Pour en finir avec 2020, Valentin compte retrouver quelques amis, mais pas trop quand même.
Vous n'êtes pas de la police, ça va?
Non. Je dirais rien.
Bon, bah, je peux dire qu'on est 25 alors. D'accord. Non, je rigole.
Et sur ce marché d'Oisem, ils ont tous le même vœu pour 2021.
Pouvoir retrouver une vie, disons, conviviale et sociale, ça manque un peu quand même. Hein.
Ça manque un peu. Ouais, on va en reparler avec ce sondage qui est tombé aujourd'hui de nos amis de Harris pour RTL dans quelques instants avec notre invité Jean-Daniel Lévy. Et puis on en reparlera avec vous tout à l'heure, hein, dans les auditeurs en la parole jusqu'à 13h30, 32-10, 3-2-0. Et vous, comment allez-vous vivre ce réveillon? Réveillon sous haute surveillance depuis hier soir. Policiers et gendarmes ont débuté par un épisode de sensibilisation, de renseignement aussi, pour éviter toute fête clandestine, que ce soit dans des lieux publics ou établissements privés, comme par exemple sur des bateaux en Méditerranée, ou des soirées éventuellement en montagne, voire des rêves partis à la campagne. Frédéric Perruche a rencontré pour RTL Thierry Suquet, c'est le préfet délégué à la sécurité du Rhône. Dans cette région, plus de 600 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour cette soirée très spéciale.
Alors, premier objectif, voilà, respect du couvre-feu. Deuxièmement, éviter les rassemblements. Traditionnellement, 31 décembre, on a l'habitude de se réunir. On sait qu'on demande aux gens de ne pas être plus de 6 dans les rassemblements privés chez eux pour le réveillon. On souhaite qu'il n'y ait pas de rassemblement dans la rue, donc on sera aussi présent pour éviter les rassemblements. Et puis, troisième point, l'interdiction de ce qu'on a appelé les fêtes clandestines, hein, qu'il n'y ait pas d'établissement recevant du public qui ouvre pour des motifs commerciaux, qu'il n'y ait pas de rassemblement dans lesquels on consomme de l'alcool, parce que dans cette période de pandémie, ça présente un risque qui est celui derrière d'entraîner des rebonds à nouveau de l'épidémie. On aura un nombre important de policiers, plus de 400 policiers et plus de 250 gendarmes.
Thierry Suquet, le préfet délégué à la sécurité du Rhône, avec Frédéric Perruche, notre bureau de Lyon d'RTL. Du jamais vu donc un soir de Saint-Sylvestre, rester à la maison, c'est le mot d'ordre pour éviter de nouvelles contaminations. Des mesures plus ou moins appréciées par les Français. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
On va revenir avec vous sur ces préconisations, hein, souvent, et des interdictions tout de même. En gros, avec vous, on va voir ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire, Cindy. Alors, en premier lieu, par exemple, il faudra bien, c'est clair, à un moment, rentrer à la maison.
Oui, tout le monde à la maison.
maison avant 20h, dernier délai. Si vous êtes encore en train de danser dans la rue en pleine nuit, vous violez le couvre-feu, 135€ d'amende.
Puis-je quand même inviter toute ma famille, elle est nombreuse, ou mes amis proches, au moins
Alors, eh bien, disons que ce n'est pas interdit, mais que ce n'est pas conseillé non plus. Le gouvernement préconise une jauge maximum de 6 personnes, on ne compte pas les enfants. Masque, distanciation, gestes barrières, vous commencez à connaître la musique. Et puis je vous rappelle que le couvre-feu se termine à 6h du matin, donc deux solutions. Soirée pyjama pour les invités ou nuit blanche pour les plus courageux.
Mon 14e prénom, c'est Sylvestre. Est-ce que je peux faire un petit feu d'artifice ce soir?
Alors attention, parce qu'un certain nombre de préfets ont pris des arrêtés pour interdire la simple détention de pétards. C'est le cas par exemple en Ile-de-France, dans le Bas-Rhin, dans le Var, etc. Dans d'autres départements, vous avez le droit de faire un petit feu d'artifice chez vous, dans votre jardin, mais pas ailleurs. Donc renseignez-vous bien avant.
J'habite dans les Pyrénées et je m'aperçois que je n'ai plus une goutte d'alcool pour ce soir et surtout que j'ai plus de champagne.
Alors rassurez-vous, un arrêté a été pris pour interdire toute vente d'alcool, mais des précisions ont été apportées depuis. Cette interdiction ne concerne que les alcools forts, donc c'est bon pour la bière, le vin et le champagne.
Alors j'ai un gros souci, parce que mes voisins font généralement beaucoup de bruit. Alors loin de moi l'idée de les dénoncer ce soir, mais est-ce qu'ils ont le droit de dépasser la limite d'ici minuit?
Non, à partir de 22h, on va dire, à partir de 22h, 23h, minuit, on commence à baisser le son, sinon vous risquez 68€ d'amende pour tapage nocturne.
Et si ça, c'est vraiment la soirée sympa, enfin j'ai le droit de traverser la rue quand même après minuit, non?
Non, c'est interdit.
D'accord, vous m'avez rappelé. Et en cas de fête clandestine, qu'est-ce que faire finalement, et concrètement, les gendarmes et les policiers?
Eh bien pas grand-chose, ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous, ils peuvent donc dégainer d'autres. Autre infraction, le tapage nocturne encore une fois, le non-respect du couvre-feu dans la rue pour ceux qui y arrivent et qui partent de la bamboche. Les autorités attendent surtout cibler les organisateurs de fêtes type grosse soirée payante. Ils peuvent être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui.
Merci à vous, Cindy Hubert. Que faites-vous ce soir, Cindy?
Rien, je travaillerai.
Regardez-moi dans les yeux. Très bien. Et vous, que faites-vous? Venez nous en parler sur le 32-10 entre 13h et 13h30. Je vous rappelle l'information qui vient de tomber il y a moins de 10 minutes maintenant. Le décès de Robert Hossein à l'âge de 93 ans. On pourra évidemment parler de ce grand comédien, ce grand metteur en scène, ce cinéaste incroyable. Robert Hossein, monument du théâtre, est donc mort aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Hier, il fêtait ses 93 ans, justement, un 30 décembre. Une pause un instant, on va parler de votre morale avec un sondage. Oulala, espoir mesuré pour 2021 vu ce qui se passe. Et pendant 2020, un bilan totalement négatif, on le décrit dans un instant.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
On va parler morale des Français en ce dernier jour de l'année avec vous, Jean-Daniel Lévy. Vous êtes politologue et directeur délégué d'Aris Interactive France. Bonjour.
Bonjour.
Dernier jour de l'année, et quand on fait le bilan, 82% des Français estiment qu'ils ont passé une année 2020 négative et 39% une année très négative. C'est quoi la différence entre négative et très négative?
Très négative, c'est encore plus intense dans le regard critique à l'égard de ce qui a pu être l'année, les 12 derniers mois. Ce qui est assez frappant, c'est 82%, ils sont importants. Il faut les comparer aux enquêtes que nous avons été amenés à réaliser par le passé.
La pire, c'était quoi? C'était 54% depuis la création du baromètre?
Absolument,
c'est ça?
Oui. Ouais. Ça fait 12 ans en fait qu'on travaille ensemble. 12 ans que fin décembre, on leur demande comment s'est passée l'année passée. Et le maximum de critiques qui étaient émises à l'égard des 12 derniers mois, c'était effectivement à 54%. Là, on est dans des niveaux que nous n'avons absolument jamais atteints.
Mais on va vite remonter, on l'espère tous, ce moral.
Alors,
remonter,
on va
à la hausse.
On va espérer. En même temps, quand on pose la question aux Français, quand ils se projettent sur l'année à venir, on a aujourd'hui près de 6 Français sur 10 qui se déclarent pessimistes à l'égard de l'année à venir. C'est pas comme si on nous disait « Bon, écoutez, 2020, ça a été une année terrible ». On ferme la parenthèse maintenant et on entre dans un nouveau cycle. On n'est pas aujourd'hui face à cet élan d'optimisme qui traversera les Français, quand bien même il y aurait la campagne de vaccination qui aurait été orchestrée.
Et ce sondage, Jean-Daniel Lévy, a été effectué ces dernières semaines, on est bien d'accord?
Il a même été réalisé ces derniers jours.
Voilà, ces dernières heures, non, parce qu'il y a une évolution, il y a ce couvre-feu qui arrive, on ne connaît même pas les départements quand même pour l'instant. C'est qu'il y a une vingtaine de départements, encore un couvre-feu qui va débuter à 18h. On ne connaît pas encore exactement l'identité de ces départements. Le président va s'exprimer ce soir, président Macron. On souligne, côté du gouvernement, le porte-parole, ce sera un message de vérité, de transparence sur une année extrêmement difficile pour le pays. J'allais dire heureusement, mais comment faire aujourd'hui? Parce que est-ce que le gouvernement a toutes les réponses? Est-ce que le chef de l'État peut répondre aujourd'hui à toutes les questions? C'est pas simple.
Alors c'est évidemment pas simple. Et puis en fait, les vœux présidentiels sont toujours un exercice un peu circonscrit dans le temps et qui doit passer en retour l'année passée, puis également se projeter vers l'avenir. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est que quand on regarde ces 12 derniers mois, la confiance dans le président de la République a augmenté au cours de ces 12 derniers mois.
On pourrait dire inhérent à cette pandémie.
On pourrait dire il y a une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, une crise même sécuritaire qui existe dans la société française. Des critiques ont été émises au début concernant les masques. Des critiques qui ont été émises par la suite concernant les tests. Des critiques à l'heure actuelle concernant la campagne de vaccination. Et pour autant, on est face à des Français qui déclarent faire un peu plus confiance au président de la République qu'ils ne le faisaient par le passé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment que, certes, il y a eu des tâtonnements.
On lui impute pas la faute.
Donc. Un, il n'a pas forcément la faute à l'heure actuelle. Et puis deux, il y a pas de contre-modèle absolu, ni de contre-modèle dans la société française, c'est-à-dire un autre responsable politique ou une autre force politique qui permettrait de dire on peut faire différemment, ni même un pays qui, d'un point de vue global, donne le sentiment qu'il y aurait cette solution absolument à suivre, ni l'Allemagne, ni la Suède, par exemple, qui ont bien été citées à d'autres moments.
Ce ne sera pas simple pour le président de la République, ça on le sait, c'est un exercice difficile. J'écoutais Jacques Serret ce matin du service politique sur RTX, et qu'en 2018, pour ses premiers vœux, le président parlait de cohésion sociale, on a eu les gilets jaunes, en 2019, les grandes réformes, on a eu les grèves, et en 2020, il se félicitait des chiffres du retour à l'emploi, plus de 500 000. Des vœux de paix et de bonheur, je cite, avait dit Emmanuel Macron avant de conclure. Ce soir, il est obligé d'aller dans l'optimiste tout de même, qui sera complètement mesuré, modéré. Ça va aider quand même au moral des Français, en croire à leur président ?
Alors, oui, ça peut aider. De toute façon, on a toujours besoin d'avoir des points d'optimisme. On a mesuré quasiment tous les dossiers qui sont aujourd'hui sur le bureau du Premier ministre et du président de la République. Pour aucun de ces dossiers, les Français se déclarent optimistes à l'égard de l'année à venir. Malgré tout, quand on regarde dans le détail, il y a un point d'optimisme concernant la lutte contre la Covid, où on a pratiquement un Français sur deux qui se déclare optimiste à l'égard de l'avenir, et puis également une dimension inhérente à celle-ci qui sont la recherche et l'innovation. Donc il y a la perception que, malgré tout, il y a une forme de dynamique nouvelle qui est en train d'être orchestrée. Certes, il y a des critiques qui sont exprimées aujourd'hui à l'égard du corps médical, certes, il y a des critiques qui sont exprimées à l'égard des experts, mais pour autant, s'il y a un point sur lequel les Français, un peu plus que sur les autres, déclarent avoir confiance, c'est concernant ces deux dimensions, recherche et innovation.
Jean-Daniel Lévy, politologue et directeur délégué d'Aris Interactive France, merci pour ce sondage, combien éclairant en tout cas, réalisé avec RTL. Merci à vous, et puis bonne fin d'année hein, tout de même.
Vous aussi.
Elle est longue à se terminer cette année 2020. Absolument. Le président Macron à la télévision, et puis sur RTL ce soir à 20h. Le débrief, ce sera avec Isabelle Choquet et toute son équipe. Quant au Premier ministre, lui, Jean Castex, il passera sa nuit du réveillon au Tchad, aux côtés des militaires français de l'opération Barkhane. 12h48, Bretagne, Grande-Bretagne, B comme Brexit. Oui, Brexit Day, c'est pour ce soir minuit. Après 4 années de longues négociations, le Royaume-Uni va donc quitter l'Union Européenne. Les Français basés en Angleterre se préparent depuis longtemps à ce changement d'importance. Marie Billon est allée à la rencontre aujourd'hui de deux épiciers français qui sont basés, bien sûr, à Londres, tout près de la City, spécialistes en fromage, jambon, saucisson, et ils reviennent sur les conséquences de cette séparation économique.
Jean Hubert s'affaire sur son étal de fromage installé au marché de Borough Market dans le sud-est de la capitale. Il est le gérant de Une Normande à Londres. Avec la fermeture inopinée des frontières la semaine dernière à cause de la nouvelle souche du virus, il a suivi de loin la pourtant tant attendue conclusion d'un accord commercial.
Oui, c'est toujours une meilleure nouvelle que d'avoir un no deal ou avec justement des taxations et tout le tralala. C'est une bonne nouvelle. Après, il y aura certainement plus de paperasse pour nous, ça, c'est sûr.
Et justement, c'est ce qui fait le plus peur désormais à son voisin, Florent, qui tient la boutique de French Comté.
Nous, on a fait le nécessaire, on a le numéro d'importateur, on est prêt. C'est surtout, oui, les Européens à qui il va falloir s'adapter parce que, par exemple, surtout sur la charcuterie, la viande, il va falloir des papiers du fournisseur. Et je parlais à un fournisseur la semaine dernière, il me dit je ne serai pas prêt. Quoi. Il n'a que nous comme clients au Royaume-Uni, donc ce n'était pas sa priorité numéro un. Quoi.
Pour parer à un Brexit dur s'il avait eu lieu, Florent avait fait des réserves. Ses fournisseurs ont donc encore 2-3 mois pour s'ajuster à la nouvelle réalité administrative.
Marie Billon à Londres pour RTL. Ce jeudi 31 décembre, c'est aussi l'heure du bilan dans bien des secteurs. Côté économique par exemple, malgré la crise sanitaire, le CAC 40 s'en est pas si mal sorti. Il termine à moins 6%. Après, faut-il le rappeler, une année record hein, tout de même en 2019 qui était à plus de 28%. Christophe Ponzio, bonjour.
Bonjour.
On peut dire que les entreprises du CAC 40 ont en quelque sorte, hein, limité la casse.
Bah oui, grâce à quelques secteurs épargnés par le Covid qui ont tiré l'indice vedette de la Bourse de Paris vers le haut. Le luxe d'abord, Hermès en tête, médaille d'or des hausses 2020, plus 33%. LVMH aussi, plus 24%. On retrouve aussi des industriels qui ont également gardé la confiance des investisseurs comme Schneider Electric, Alstom ou Dassault Systèmes, dont les titres auront progressé entre 13 et 30%. Sans eux, le CAC 40 ne serait pas dans le rouge, hein, mais bien teinté de noir. Car les valeurs auront fait le grand écart cette année. En bas de tableau, on retrouve les banques, la Société Générale en tête, qui cède 45%. Trou d'air aussi pour Airbus, moins 30%, tout comme Danone ou Total. Bref, en tout, la moitié du palmarès finit dans le rouge cette année. Mais ça aurait pu être pire. Souvenez-vous, fin février, le CAC 40 décrochait sévèrement. Hein. Moins 40% pour toutes ces valeurs en moins d'un mois. Et puis, il y avait une journée historique, hein, le 12 mars, journée noire, avec un krach boursier, moins 12% en une seule séance. Jamais l'indice parisien n'avait connu un tel marasme depuis sa création. Vous étiez bébé, hein, Christophe, c'était en 1987.
Non, pas si bébé que ça.
Oh, ah, mais...
Vous, oui, Christophe Ponzio, service économique et social d'RTL. Avant de découvrir votre météo du jour et du 2021, au moins des premières heures, vers ce basculement dans un instant, on va en parler avec Claire Delorme, mais on va s'intéresser sur des départements qui sont encore en alerte inondation. On va aller dans les Landes. Philippe de Maria, il est tombé tout de même, hein, c'est assez incroyable, en 3 jours, l'équivalent d'un mois et demi de pluie.
Oui, il tombe des hallebardes sur toute la région et particulièrement sur les Landes. Le relief est faible dans ce département. Les eaux ont à mal fois s'évacuer. Le ciel est uniformément gris depuis des jours. Les averses se succèdent et font gonfler les cours d'eau. Des ruisseaux deviennent de larges rivières sans courant violent, mais les eaux s'étalent comme celles de la Midouze. C'est à Tartas. Pascal Lafourcade est élu à la sécurité et il ne quitte plus ses bottes en caoutchouc.
La mairie est encadrée. Hein. Par l'eau, bon, on peut y accéder malgré tout. Hein. On a des madriers un petit peu partout sur le secteur. On prend contact avec les personnes sensibles. Hein. 2 personnes qu'on a évacuées, 2 autres qui ont été reprises dans leur famille. Le problème, c'est qu'on sait que ça va s'inscrire dans la durée. C'est pas tant la montée des eaux qui peut poser souci, c'est surtout le temps où ça va s'évacuer. Le ciel reste menaçant. Donc oui, c'est un réveillon, les pieds dans l'eau.
Et ce matin, légère amélioration, nous annonce la préfecture des Landes, avec 51 routes inondées sur le département, contre 62 la nuit passée.
Merci à vous, Philippe de Maria. Dans moins de 10 minutes maintenant, votre météo complète avec Claire Delorme pour ce dernier jour de l'année, les premières heures de 2021. Et puis, welcome to the other side, hein, comme diraient les Anglais, avec le Brexit. Et Jean-Michel Jarre qui va nous rejoindre dans un instant. C'est le titre de son grand spectacle du jour. C'est un spectacle qui aura lieu ce soir à 23h25. Il ne sera pas chez lui, il sera dans un petit pavillon, le pavillon Gabriel à Paris, mais dans un décor assez incroyable, puisqu'il sera dans Notre-Dame, reconstitué pour l'événement. On en parle dans une minute.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christophe Paco.
C'est l'événement de la soirée. On rappelle évidemment, auparavant, avant de parler avec Jean-Michel Jarre de son grand spectacle, on rappelle l'information de cette mi-journée avec le décès de Robert Hossein à 93 ans, ce monument du théâtre, du spectacle, comédien, réalisateur, metteur en scène qui nous a quittés. Bonjour Jean-Michel Jarre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'imagine que quand je pense à vous, quand je regarde tout ce que vous avez fait, vous n'êtes pas insensible à tout ce qu'a pu faire Robert Hossein, qui lui, comme vous, était un expert dans les grands spectacles.
Bien entendu, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a eu la chance de se retrouver d'ailleurs à Marigny quand il était encore directeur et que on a célébré Noël avec un concert assez particulier où je devais faire ça une fois et il m'a dit ben, « reste 10 jours ». Donc il a fallu improviser... Et il avait justement ce sens du tempo, je dirais. Il avait une oreille de musicien, pas seulement sur le plan musical, mais sur le plan des opportunités et de la manière dont on devait rythmer un spectacle ou une œuvre en général. Et c'est quelqu'un qui a apporté énormément sur le plan de la manière de structurer un spectacle et quel qu'il soit d'ailleurs.
C'est pour ça que vous ressemblez quelque part dans ce côté génial, hein, que vous avez tous les deux de pouvoir créer des œuvres comme Jésus, comme Bénure et comme vous quand vous jouez n'importe où dans le monde, que ce soit à Houston pour la NASA ou que vous allez dans un désert incroyable pour parler musique, pour parler art. Hein.
Bah écoutez, je ferai pas de comparaison avec quelqu'un que j'aime et que j'admire profondément. Vous savez les gens qu'on aime sont, on pense toujours que les gens qu'on aime sont éternels et ils le sont. Et Robert Hossein est éternel au Panthéon du théâtre et le restera et c'est évidemment une grande perte, mais c'est aussi quelqu'un qui a tellement apporté au théâtre, aux jeunes acteurs, aux jeunes réalisateurs, qui avait une très grande générosité et qui a aidé énormément de gens aussi sur son parcours. Donc c'est un modèle à suivre.
Jean-Michel Jarre, c'est une année vraiment particulière. On a tous perdu un être cher. Je repense à vous, je vous écoutais témoigner sur la mort de Christophe, par exemple, chez nous sur RTL il n'y a pas si longtemps. C'était important pour vous de faire un concert dans un endroit qui est quand même un endroit assez incroyable. Vous avez reconstitué de façon virtuelle Notre-Dame et la nef de Notre-Dame. Vous allez jouer à l'intérieur ce soir.
Oui, vous savez, je pense que ce qui était important, c'est effectivement de ne pas baisser les bras. Et un moment où il y a tellement de désarroi chez chacun de nous, dans chacune de nos familles, et notamment dans le secteur de la culture, où on est ballotté de confinement en confinement, de retard de salle en retard de salle. Et effectivement, il y a tellement d'événements culturels de manifestations culturelles qui s'annulent que, début septembre, on a parlé avec Anne Hidalgo, qui a eu la présence d'esprit et de se dire ne baissons pas les bras, essayons de faire quelque chose de différent pour célébrer la nouvelle année. Au fond, envoyer un message d'espoir pour la fin du tunnel qu'on attend tous, et en même temps de le relier à d'en profiter pour rendre hommage à une cathédrale, Notre-Dame, qui a été affaiblie comme nous, et qui, au fond aussi, dont on souhaite la prompte convalescence, renaissance. Et donc l'idée est venue de faire un concert virtuel dans Notre-Dame, qu'on a complètement remodélisé pour la circonstance, qui va être donc où je vais jouer en direct depuis le studio Gabriel, mais avec des capteurs sur mon corps, un peu comme Matrix, comme dans le film.
D'accord.
Et via mon avatar, qui sera en direct dans la cathédrale. Et donc on pourra suivre ce concert à partir de 23h25, sur BFM TV,
sur YouTube, sur les chaînes,
sur Facebook, donc un petit peu partout. Et je dois dire que c'est un honneur de pouvoir être un petit peu à la tête de 150 personnes. Il y a des tas de jeunes start-up qui depuis 3 mois travaillent jour et nuit. C'est en même temps une manière de rendre hommage à l'innovation française et de ne pas laisser justement ce mode d'expression émergent aux Américains ou aux Chinois. Vous avez la réalité virtuelle, mais j'ai pensé un peu au cinéma au début du cinéma, quand à l'époque des Frères Lumière, quand en fait on projetait les cinémas dans les films dans des cirques et avec une lanterne magique sur un drap, et les gens du théâtre, du spectacle vivant à l'époque disaient ben ces gens qui s'agitent sur un drap sont pas des acteurs, les acteurs sont des gens qui sont en phase, qui sont en direct avec le public. Et en fait, là, le cinéma est devenu l'art que nous connaissons.
Bien sûr.
Et la réalité virtuelle est un mode d'expression qui est tout à fait comparable.
Ouais, ça veut dire que si j'ai des lunettes, par exemple, en réalité virtuelle, je pourrais vous voir ce soir. Et on va se mettre un tout petit peu quand même dans l'ambiance. Hein. Voilà, à ce moment, je mets mon petit casque de réalité virtuelle et je peux vous apercevoir, je peux vous applaudir, je peux vous encourager.
Alors, pour tous ceux qui ont un casque de réalité virtuelle, ils peuvent nous rejoindre où qu'ils soient dans le monde, dans la cathédrale, exactement comme dans un concert normal, en venant devant la scène et partager ce moment avec mon avatar. Et pour tous les autres, ils peuvent assister au concert de manière plus traditionnelle, à la télévision, sur BFM, sur YouTube, sur Facebook, où qu'ils soient. Et en même temps, c'est une manière de connecter avec les gens qui sont isolés géographiquement ou socialement, et de pouvoir justement inviter le monde entier, les Français bien entendu, à fêter la Saint-Sylvestre au cœur de Paris.
On va le faire ce soir, 23h25, coup d'envoi de votre grand concert. On prendra un peu d'oxygène, on parlera d'Equinox, évidemment, cet univers qui vous appartient. Merci mille fois d'avoir été avec nous, côté Electronica, comme votre dernier album, Jean-Michel Jarre, ce soir dans la nef virtuelle de Notre-Dame. Dans 1 minute 13 h, on va revenir sur le décès de Robert Hossein dès le début du rappel des titres aujourd'hui. Vous avez la parole pour également témoigner, 3210 3210.
RTL Midi. RTL.
13h01.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Paco sur RTL.
Et avant de vous retrouver sur le 3210, le 3210, c'est votre émission jusqu'à 13h30. On l'a d'accord pris tout à l'heure, à 12h30, la disparition d'un monument du théâtre et du cinéma. Le comédien et metteur en scène Robert Hossein nous a donc quitté au lendemain de son 93e anniversaire. Avant de mettre en scène ses grands spectacles hein, sur Jésus ou encore Ben-Hur, on en parlait il y a un instant avec Jean-Michel Jarre, il était devenu célèbre pour son rôle. Oui, tout le monde s'en souvient du comte de Perrac dans la série des Angéliques Marquise des Anges. Il avait évoqué auprès de Monique Younes cette passion précoce hein, pour le métier de comédien.
Mes parents avaient beaucoup de problèmes et de difficultés, puisque mon père était musicien et on habitait plutôt une chambre de bonne. J'aimais ce métier, mais inconsciemment, je n'analysais pas les raisons pour lesquelles j'aimais ce dédoublement, quoi. Je voulais me sortir de la merde, surtout dans laquelle on vivait et tout, et je me disais toujours, mon Dieu, si un jour j'aborde cette profession, peut-être que j'aurai un peu de chance et je pourrais en vivre. Et je savais pas que la mise en scène et toutes ces choses-là allaient complètement m'envoûter, me fasciner.
Monique Younès avec Robert Hossein. Nous avons quitté aujourd'hui à l'âge de 93 ans. On va rendre évidemment hommage à Robert Hossein. Encore avec vous, dans Les Auditeurs ont la parole, 3210-3210. Et ce soir, dans RTL Soir, avec Isabelle Choquet. Autre disparition, on vient de l'apprendre à l'instant de nos confrères. On vient d'apprendre la mort d'Olivier Royan. C'était le directeur de Paris Match. Il était âgé de 58 ans. Étonnante année 2020. On va la terminer ce soir avec la traditionnelle allocution du président de la République. Ce sera à 20h précise. On fera un grand débrief sur RTL également dans la foulée d'RTL Soir, édition spéciale. Le président qui devra adresser un message de vérité, de transparence sur une année extrêmement difficile pour le pays, a souligné tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On va donc passer en 2021 et depuis une heure, ça y est, quelques pays ont déjà franchi cette bascule. Le basculement, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Feu d'artifice à la pluie. La Nouvelle-Zélande qui n'a enregistré que 25 décès dans l'année dû au coronavirus. Nous, de façon inédite, on va donc passer un réveillon différent vu le nombre de contaminations en ce moment. Un réveillon sous surveillance avec 100 000 forces de l'ordre qui sont déployées partout en France avec une météo plutôt triste ou nette en ce moment. Mais côté ciel, on a quand même envie à l'intérieur, à la maison ce soir, Claire Delorme, de se faire plaisir.
Exactement. D'ailleurs, il faudra que vous me donniez vos conseils et astuces car... En tout cas, qu'il vente ou qu'il neige, hein, l'humeur avec vous est toujours...
On essaye.
Donc pour clôturer l'année 2020, elle se fera en beauté par un temps perturbé hein, sur une grande partie du pays avec de la pluie, du vent et du froid du sud-ouest en passant par les régions centrales, les Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore la région Grand Est. Et quelques flocons pourront d'ailleurs se mêler à de la pluie vers les Ardennes ou encore à basse altitude vers les frontières de l'Est. Attention au risque d'avalanche sur l'ensemble des massifs ainsi qu'encore au risque de crue qui va se maintenir dans les départements du sud-ouest, donc près de la Méditerranée. En revanche, le ciel sera plus variable avec un risque d'orage vers la Côte d'Azur et la Corse et ce sera en direction du quart nord-ouest, des Pays de la Loire aux Hauts-de-France où les éclaircies seront les plus belles, mais là aussi avec quelques averses. Donc quant aux températures, eh bien, elles n'excéderont pas les 6 degrés dans la moitié nord et les 13 degrés dans la moitié sud avec 5 degrés à Paris, 3 degrés à Lille, 7 degrés à Lyon, 9 degrés à Bordeaux ou encore 11 degrés à Marseille.
Et demain, les premières heures de 2021 ?
Alors demain, ce sera beaucoup plus calme qu'aujourd'hui, mais au prix aussi de quelques degrés en moins, donc on aura quasi plus de pluie, mais les gelées seront quasi généralisées le matin et seront en moyenne entre 2 et 6 degrés l'après-midi. Donc non seulement il faudra bien se couvrir, toujours surveiller le risque d'avalanche avec encore quelques flocons qui pourront blanchir sur les massifs et les plaines du nord-est, mais ce sera en Méditerranée où le temps fera des siennes entre Mistral, Tramontane, qui vont en plus se renforcer avec quelques averses, mais aussi entrecoupées de quelques éclaircies.
Merci beaucoup Claire Delorme, mais bon réveillon tout de même. Merci. Au chaud et en respectant les mesures sanitaires. Il est 13h05.
Quand le sport reste essentiel,
RTL avec les étoiles du sport.
Une année sportive fortement perturbée par la pandémie. Toute cette semaine, depuis 15 jours même, on vous parle de ces champions qui étaient obligés d'arrêter, évidemment, leur discipline préférée, des Jeux Olympiques reportés, des athlètes de haut niveau qui ont dû s'adapter. Isabelle Anger a rencontré une dizaine de champions et des interviews qu'on va retrouver donc comme aujourd'hui avec Perrine Lafont, au cours desquelles les champions reviennent sur cette année 2020 plutôt spéciale, mais aussi sur leurs engagements citoyens. Perrine Lafont est championne olympique de ski de bosse et double championne du monde. Elle répond donc aujourd'hui aux questions d'Isabelle Anger.
Bonjour Perrine Lafont.
Bonjour.
Perrine, cette année a été compliquée avec la pandémie, mais alors pour vous, au niveau sportif, ça a été encore une année incroyable. Hein.
Oui, c'est vrai que tout le monde dit que 2020 est une année très négative, mais pour moi c'est plus que positif, des rêves encore accomplis, donc c'est clair que pour moi l'année 2020 est bonne.
Une année 2020, Perrine, quand même assez spéciale. Hein. Il y a d'abord eu ce troisième globe de cristal avant le confinement. Et puis, vous avez travaillé pour la reprise de la saison qui s'est faite dans des conditions finalement pas si mal que ça pour vous.
Hein. C'est vrai que oui, là, la Finlande et la Suède, ça a été plutôt simple, si on peut dire. Après, c'est vrai qu'on a quand même été beaucoup testés. Enfin, il fallait faire quand même très attention aux gestes barrières parce qu'on va sûrement avoir très peu de compétitions cet hiver. Alors, il vaut mieux pas les rater. Mais finalement, ça s'est plutôt bien déroulé. Enfin, voilà, on était à huis clos. L'ambiance était quand même un petit peu bizarre, c'est vrai. Tout le monde était un petit peu tendu, surtout sur la première étape. Mais finalement, pour l'instant, on est chanceux quand même.
C'est une saison qui repart sur les chapeaux de roue pour vous.
Bah oui, ça repart bien. Après, c'est vrai que là, on est un petit peu... On sait pas trop sur quel pied marcher parce que bah voilà, nos championnats du monde ont été annulés en Chine. Ils vont sûrement être repris à Calgary, au Canada. Mais du coup, ça veut dire que nos deux Coupes du Monde qu'on avait prévues là-bas, elles sautent. Le Japon a sauté aussi. Donc pour l'instant, là, sur le planning, il nous reste deux étapes de Coupe du Monde, quoi. Donc ce qui est très peu. Donc bah là, on essaye de voir en France s'il y a pas moyen qu'une station, elle veuille bien reprendre. On essaye de trouver un petit peu des solutions comme celle-ci.
On a la pandémie et puis aussi il y a ce réchauffement climatique. Vous qui êtes tout le temps par Mons et par Vaud dans différentes stations, vous vous rendez compte des dégâts aujourd'hui ?
Ah bah oui, clairement, parce que nous tous les étés et tous les automnes on va sur le glacier de Tignes pour s'entraîner et c'est vrai que bah, ces dernières années ça a été de plus en plus compliqué d'y aller parce qu'il y avait moins de neige, bah, les étés ils étaient de plus en plus chauds donc le glacier il fondait mais vraiment à vue d'œil.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Comment vous avez envie de vous impliquer dans cette lutte ?
Tous les ans, dans ma station au Mont-Dol, je fais un petit événement où bah voilà, j'initie les jeunes à faire du freestyle, un peu à faire du ski-boss. Aussi, les sensibiliser à la cause du réchauffement climatique parce que, mine de rien, pour moi, les enfants, c'est l'avenir, c'est la prochaine génération. Et je pense que le plus important, c'est de les sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est ce qu'ont fait mes parents avec mon éducation. Ils m'ont appris les choses simples, hein, à faire le compost, à faire le tri, des choses comme ça. Et je sais pas, voilà, j'ai envie de les sensibiliser aussi à ce niveau-là pour que voilà, on ait peut-être un avenir meilleur.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021, Perrine ?
Bah, plein de bonheur sur les skis, que je me fasse encore plaisir et que le monde s'améliore aussi, un petit peu, voilà.
Votre compteur est bloqué à 20 victoires en Coupe du Monde. Vous pensez qu'on peut en ajouter quelques-unes ?
Oh bah écoutez, je pense que tant que je me fais plaisir sur les skis, il devrait y en avoir d'autres qui arrivent normalement. Non, en tout cas, on travaille pour.
Perrine Laffont avec Isabelle Langer, quand le sport reste essentiel, chronique à retrouver sur le site rtl.fr. Mise en onde par Dominique Biara et donc les rencontres signées Isabelle Langer. 32-10, c'est votre émission. 3-2-1-0, on va revenir avec vous. Je l'imagine, hein, sur le décès, on l'a pris hein, vraiment à midi et demi, de Robert Hossein, 93 ans, géant du théâtre et du cinéma, qui s'en est donc allé. Il avait célébré son anniversaire hier. Parlez-nous de Geoffrey de Peyrac, hein, vous savez, d'Angélique Marquise des Anges. Parlez-nous de Bénure, parlez-nous de Jésus, de ses grands spectacles. Robert Hossein, donc, qui nous quitte aujourd'hui à 93 ans. Puis parlez-nous de votre réveillon, bien sûr. Qu'avez-vous prévu ce soir? Petit comité, allez-vous respecter les règles sanitaires? 3210, 3210, c'est à vous dans une minute.
Les auditeurs ont la parole. Christophe Pacaud sur RTL.